Pour moi, il n'y a pas de différence entre magie blanche ou magie noire. Ça, ce sont des distinctions que l'on a opérées pour simplement dire qu'il peut y avoir une magie bénéfique, une magie qui apporte des résultats positifs pour l'homme, et puis une magie qui vise plutôt la destruction, qui serait la magie noire. Mais dans la réalité, la magie, qu'elle soit noire ou blanche, ou même rouge, parce que ça existe, la magie repose exactement sur la même croyance, à savoir qu'il y aurait des forces extérieures à l'homme, des forces cachées, que l'on pourrait domestiquer, mettre à son service, au moyen de techniques, en particulier de formules, de potions, de rituels. Et cette maîtrise, finalement, de ces éléments cachés sont là pour obtenir des résultats moyennant des connaissances plus ou moins secrètes, accessibles à des initiés, utilisées pour obtenir tel ou tel résultat.
Il y a également des personnes, disons, qui pratiquent la voyance, qui lisent dans les cartes, qui ont des dons de guérisseurs. Alors, est-ce que ça aussi, est-ce que ça rentre dans la magie ?
Oui, je mettrais derrière le mot magie une mentalité magique. C'est-à-dire de penser que par la connaissance et par certains pouvoirs et certaines maîtrises d'éléments soi-disant naturels, ou même parfois que l'on a en soi, on peut avoir part à la fois sur sa vie ou sur celle des autres. C'est exactement la même chose. Alors après, ça peut prendre le mot astrologie, voyance, ou toutes sortes de noms. Le catéchisme de l'Église catholique en parle et met en garde contre ces pouvoirs. Il est sous-entendu que ça n'est pas une illusion. Il y a une forme de force que l'on pourrait utiliser. Mais attention, ces forces sont-elles de Dieu ou ne sont-elles pas de Dieu? Et c'est là-dessus que je voudrais être très clair en disant, même si effectivement on touche certaines réalités, il ne s'agit jamais de dons qui viendraient de Dieu. D'ailleurs, l'Église est très prudente, elle différencie ce qui peut être don et charisme. Un charisme, c'est un don de Dieu. Par exemple, il peut y avoir des charismes de guérison ou des charismes de connaissance qui sont donnés, mais uniquement, non pas pour faire du spectaculaire, non pas au service de la personne qui va finalement en tirer un certain bénéfice de ce pouvoir, mais au contraire pour faire grandir les personnes et la communauté et amener vers Dieu. Et c'est toute la différence, j'allais dire, entre des dons dits naturels, qui ne sont pas si naturels que ça d'ailleurs, et des charismes qui sont des dons qui viennent de Dieu. Soit dit en passant, je pense que ces dons, souvent on les attribue à des forces de la nature qu'on ne connaîtrait pas, mais à titre personnel, à partir de mon expérience, moi j'oserais affirmer que c'est plutôt lié au monde invisible et en particulier au monde démoniaque. Je n'ai jamais vraiment vu de dons, finalement d'une manière ou d'une autre, qui ne nous attirent pas dans un chemin d'abord d'orgueil, de puissance, de pouvoir. Et dans ce domaine-là, le prince du monde, eh bien, il ne faut pas se tromper, c'est bien Satan.
Revenons-en à vous, par quoi se traduisaient ces pratiques dans votre vie et comment cela s'est-il répercuté dans votre quotidien ?
La répercussion dans mon quotidien a été absolument totalitaire et terrible, en fin de compte. Ça n'a pas été du jour au lendemain, ça a duré donc sur plusieurs années. Ma curiosité étant piquée, je suis allé de plus en plus loin dans les initiations, toujours à la recherche de pouvoirs et de dons qu'on finit plus ou moins à acquérir, mais en tout cas, toute notre vie finit par être orientée vers cette recherche. Et aujourd'hui, dans mon ministère, je rencontre énormément de gens qui passent leur vie à faire des expériences, à pratiquer certains rites, au point d'ailleurs que toute leur vie n'est prise que par cette recherche. C'était mon cas. Et les conséquences sont dramatiques parce que, à la fois, on est attiré, j'allais dire, ça développe en nous un désir d'orgueil terrible parce qu'on a l'impression d'avoir une puissance que les autres n'ont pas. Mais d'une certaine manière aussi, cela peut mener à la folie. D'ailleurs, les psychiatres le savent très bien. Il y a énormément de gens qui finissent par sombrer dans la folie parce qu'on finit par entrer dans une forme de chaos. On finit par croire un peu tout et n'importe quoi. Mais cela aussi a des répercussions, par exemple, sur nos relations avec les autres, parce qu'on n'a plus des relations qui sont normales, qui sont dans l'amitié, qui sont également dans l'amour, mais tout devient finalement prétexte ou objet de recherche de puissance, de domination. Rien ne fait plus plaisir à quelqu'un qui pratique l'ésotérisme que d'avoir l'impression de pouvoir l'influencer, influencer sa vie, pouvoir finalement avoir du pouvoir sur l'autre.
J'aimerais bien également en revenir donc à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous dites que ces histoires d'anges, de magie, etc. Sont très populaires aujourd'hui. Et je voudrais qu'on parle du phénomène Harry Potter. Parce que beaucoup en parlent, beaucoup en font la promotion, etc. Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un danger derrière justement ce phénomène Harry Potter ?
Sans diaboliser cette lecture, il faut en même temps faire très attention et je voudrais souligner 2-3 points concernant Harry Potter, ou l'équivalent, hein, parce que finalement, il n'y a pas qu'Harry Potter, simplement, c'est le plus populaire. Le premier point, celle qui a écrit ce livre, Rowling, ne croit pas à la puissance de la magie. Elle s'est servie simplement de la magie comme pour illustrer son propos et créer un monde imaginaire. Seulement, comme c'est une universitaire, elle s'est appuyée sur des documents réels et des pratiques magiques qui existent vraiment. C'est-à-dire que ce qu'elle a écrit, d'une certaine manière, n'est pas issu de son imagination. Et si on fait des recherches, par exemple par Internet, on se rend compte que tout ce qu'elle a écrit fait partie de l'enseignement que donnent certaines écoles de magie ou certaines sectes. Deuxième point par rapport à la magie, le danger que représentent ces livres, c'est qu'elle semblerait dire qu'il y a une magie inoffensive, plutôt bonne, plutôt gentille, c'est la magie blanche, qui serait à l'opposé de la sorcellerie qui, elle, serait négative. Et ça, je pense qu'il faut dénoncer un peu cette division entre la magie blanche et la magie noire, parce que la magie, il n'y en a qu'une, et qu'elle est fondée sur la recherche de pouvoir, et non pas sur l'amour. C'est tout ce qui différencie, par exemple, la prière, où on s'adresse à un autre, à un dieu qui n'est pas à mon service, qui n'est pas à manipuler, mais si on lui fait une demande, donne dans sa liberté, en fonction aussi d'une relation d'amour qu'on peut avoir avec lui. Donc vous voyez, la différence entre la magie et la prière, de ce côté-là, est énorme. Or, dans Harry Potter, c'est vrai que beaucoup de gens se disent « mais finalement, la magie n'est pas si dangereuse que ça, au contraire, elle est même attirante ». Et moi, j'ai vu un certain nombre de jeunes qui se disaient « mais est-ce que ça existe, des écoles de magie ?» Et ils font des recherches sur Internet, hein, et ils se rendent compte que des écoles de magie, malheureusement, je dirais, ça existe, et que ça pullule. Mais qu'y a-t-il derrière ces écoles de magie ? Voilà toute la question.